Les vacances, ça commence bien, hein, comme ça. Hein. Alors la femme essaye de déconseiller. Un petit bonbon à la menthe, chérie. Non, pas besoin. La femme fait semblant d'avoir un petit besoin pour s'arrêter sur une aire d'autoroute et décongestionner un peu l'affaire. T'aurais pas pu prendre tes précautions avant? Et les enfants derrière qui sont obligés de subir la situation, c'est bien parti les vacances. Que voulez-vous qu'elles fassent? Hein? Alors j'entends beaucoup de discours ou de cassettes, faut prendre les choses avec humour, faut surtout pas faire de l'humour à ce moment-là, vous le savez bien mesdames, vous ne faites qu'envenimer la situation, faut la boucler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, ne pas vous culpabiliser, c'est fondamental. Faut pas vous culpabiliser d'être énervé par votre mari. Ne dites jamais à confesse, j'ai été énervé par mon mari. C'est pas un péché, c'est une croix. Même les femmes applaudissent parce qu'elles savent que le contraire est vrai. Bon, et tous les saints ont été énervés. Alors ne dites pas non plus, j'ai été énervé par mon prêtre, par mon curé. Ça, c'est également une croix. Tous les saints ont été énervés par les gens d'église. Il ne suffit pas d'être énervé par les gens d'église pour être un saint, parce que alors vous seriez tous canonisés. La petite Thérèse a été énervée par son père spirituel jésuite, le père Pichon. Saint François d'Assise a été énervé par celui qui lui a succédé à la tête des frères mineurs. Anne-Marie Javoué a été excommuniée par l'évêque d'Autun qui voulait mettre la main sur sa jeune congrégation, etc., etc. Le curé d'Ars a été énervé par son évêque qui s'était mis dans la tête d'envoyer Catherine Lassagne que le curé avait installée à la tête de son école. On n'en finirait pas. Dans l'histoire de l'Église, pratiquement tous les saints ont été énervés par les gens d'Église. Donc ce n'est pas un péché, c'est une croix. Qu'est-ce que le bon Dieu vous demande de faire quand vous êtes agacé par quelqu'un? Je ne sais pas pourquoi je vous regarde en disant ça, parce que vous ne m'agacez pas. Un acte de foi. Pas un acte de charité, ça viendra plus tard. À chaud, quand vous êtes énervé par quelqu'un, un acte de foi. Dire que je reste petit prince et petite princesse alors que mon mari m'énerve autant et que les vacances sont mal parties. Et ça, c'est l'héroïsme de la foi. Vous êtes là, à la place du mort, à côté de votre mari. Vous êtes obligé de la fermer pendant une heure. Surtout pas d'humour. Faut attendre que monsieur se calme. Dans les meilleurs cas, au bout d'une heure et demie. Eh bien, je reste l'enfant bien-aimé de Dieu. Ça, c'est la sainteté. Rien ne me... Rien ne me sépare de l'amour de Dieu, pas même la mauvaise volonté de mon mari. J'ai fait exprès de prendre un exemple qui n'est pas bien grave. Bon, et veuillez m'excuser si je donne l'impression que tous les problèmes conjugaux sont aussi simples à réduire, à résoudre que celui-là. Il y en a évidemment de beaucoup plus graves, c'est évident. Un acte de foi. Et puis, un acte de descente au fond de votre cœur. C'est-à-dire que c'est la tempête au niveau de l'affectivité. C'est la quatrième fois que ça se passe, donc vous êtes énervé, vous êtes agacé, et le Seigneur ne calme pas votre tempête, mais vous faites de la spéléologie. Vous descendez l'enfant de votre cœur pour goûter la paix compatible avec l'énervement de la sensibilité. J'aime beaucoup cette réflexion que faisait un petit bonhomme quand il était en maths sup, c'est-à-dire en maternelle supérieure. Qu'est-ce que tu dirais, maman, si je devenais prêtre? Pourquoi pas, mon petit bonhomme, si c'est la volonté de Dieu? Et pourquoi tu désirerais devenir prêtre? Au moment, c'est pour apprendre les gens à voyager. Et comme ce petit bonhomme me connaît bien et qui sait que je voyage beaucoup, maman, tu comprends rien, on peut descendre de plus en plus dans le fond de son cœur. À 6 ans, il avait déjà compris que l'un des secrets de la joie chrétienne, c'est de descendre dans le fond de son cœur. C'est le grand secret de tous les saints. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, fais-moi vivre avec toi dans le fond de mon cœur. Fais-moi vivre dans la paix tout au fond de mon cœur. C'est pourquoi personnellement, même dans une messe de mariage, moi je préfère m'en tenir à la liturgie, et au lieu de dire aller dans la paix et la joie du Christ, mais je préfère m'en tenir à aller dans la paix du Christ. Car le mot joie que j'aime tant connote en français une certaine euphorie qui n'est pas toujours possible. S'il y a une personne au troisième rang dont le fils vient de se suicider, j'ai un petit peu de pudeur à lui souhaiter la joie. La paix, oui, Parce que la paix dans le fond du cœur est toujours possible, même si c'est compatible avec une grande tristesse. Quand la petite Thérèse de l'enfant Jésus apprend que son papa vient d'être enfermé comme fou dangereux à l'asile de Caen, on ne disait pas hôpital psychiatrique à l'époque, le père Martin il est à l'asile, et les mauvaises langues de Lisieux prétendaient que c'était de la faute de la petite Benjamine, elle n'avait qu'à ne pas entrer si jeune au Carmel. Quand elle apprend cela, elle est profondément triste. Et elle sait que la tristesse n'est pas forcément un péché, puisque Jésus l'a connue à Gethsémani à 16 ans et un mois, elle a déjà compris cela. Souffrir sans tristesse, ce n'est pas souffrir, ce n'est pas du jeu. Nous voudrions souffrir sans tristesse, quitte à Céline qui est restée dans le monde et qui va justement rendre souvent visite au papa. Nous voudrions souffrir sans tristesse. Oh, ce n'est pas du jeu. Qui dit joie ne dit pas joie sentie. Pour souffrir en paix, il suffit de bien vouloir tout ce que Jésus veut. La paix est toujours possible. Donc il faut beaucoup vous entraîner à faire des petits actes comme ça de descente au fond de votre cœur pour goûter la paix, même si vous êtes en pépette contre quelqu'un. C'est le secret de la paix. Et puis si vous êtes très colérique, vous savez, très explosif, eh bien vous demandez régulièrement dans le sacrement de confession, vous reprenez régulièrement la résolution de ne pas vous mettre en colère. Seigneur, tiens-moi bien dans tes mains, sinon je vais encore dire des choses ou faire des choses ou casser les assiettes qui ne sont pas des choses à faire. D'abord parce que ça grève le budget familial, et puis d'autre part, c'est pas gentil. La colère, c'est une méchanceté provisoire. Après coup, vous dites d'ailleurs, mes gestes et mes paroles ont dépassé ma pensée. Je ne suis quand même pas si méchant que cela. Mais il vaut mieux éviter ces colères. Mais je suis parfois obligé de faire comprendre à des hommes ou à des femmes que la colère, ça se maîtrise. Je pense à une fille à qui on a tellement dit quand elle était jeune, tu sais ma fille, tu es tellement colérique, un jour on va te mettre dans une maison de redressement. Erreur pédagogique profonde. Donc cette fille se dit, mais moi je suis colérique. Elle n'a rien fait pour se corriger de sa colère. Et c'est moi qui lui ai dit, alors qu'elle avait une quarantaine d'années, mais ça se corrige la colère, ça peut se maîtriser. Tu seras peut-être toujours un petit peu colérique, de tempérament colérique, mais tu peux te maîtriser. Être énervé, c'est un passif. Se mettre en colère, c'est un actif, c'est un pronominal. Bon, et puis surtout, il faut se rappeler l'homélie de ce matin. En conservant le sourire à la place du mort, près de son mari, mortifiée qu'elle ait de si mal commencé ses vacances, cette femme peut, par son sourire intérieur offert au Seigneur, sauver son couple, sauver son mari, sauver ses enfants. Elle achève dans son cœur d'épouse meurtrie, d'épouse blessée par l'attitude stupide de son mari chéri. Elle achève dans son cœur ce qui manque mystérieusement à la passion du Christ. Elle ne rate pas ses vacances. Incroyable, mais vrai. C'est comme ça qu'on devient chrétien, en faisant des petits actes de foi au cœur du quotidien. Un acte de foi dans la valeur, dans le fait que je reste l'enfant bien-aimé de Dieu. Un acte de descente au fond de mon cœur pour goûter la paix. Demander à Jésus de me tenir et offrir à Dieu mon sacrifice. Et faire cela aussi longtemps que vous sentez la moutarde vous monter au nez. Et alors, à froid, c'est-à-dire quand la crise est passée, vous pouvez faire de l'humour. C'est vrai, on peut faire de l'humour à froid. Et dire par exemple, oh, c'est vrai que nous avons deux poids et deux mesures pour regarder les autres et pour nous regarder nous-mêmes. Quand moi je n'achève pas mon travail, c'est que quand les autres n'achèvent pas leur travail, ils sont paresseux. Quand moi je n'achève pas mon travail, c'est que je suis surchargé. Quand les autres critiquent les autres, c'est de la médisance. Quand moi je critique les autres, c'est de la critique constructive. Quand les autres mettent beaucoup de temps à faire quelque chose, comme ils sont lents. Quand moi je mets beaucoup de temps à faire quelque chose, je suis simplement soigneux. Quand les autres font quelque chose sans qu'on leur demande, ils s'occupent de ce qui ne les regarde pas. Quand je fais quelque chose sans qu'on me le demande, je prends des initiatives. Vous riez normalement, mais je vous signale qu'à chaud, vous ne riez pas du tout. Donc n'essayez pas de faire de l'humour dans les crises émotives. C'est la petite Thérèse qui m'a appris cela. J'ai répercuté ça dans mes livres sur Thérèse et, ou bien sur la charité fraternelle. Je me suis aperçu qu'elle a changé d'attitude au cours de son métier de maîtresse et novice, parce qu'elle s'est rendue compte qu'à chaud, il y avait des principes qu'il fallait appliquer différents de ceux qu'on applique à froid. Puis alors, c'est vrai qu'à froid, surtout, il faut se dire que moi aussi, j'ai mes petites incohérences. Et quand je confesse, combien, je ne fais pas d'allusion à ce que j'ai entendu hier en confessant, mais combien de chrétiens s'accusent d'être médisants. C'est d'ailleurs très bien de l'accuser. Vous vous rendez compte qu'il faut essayer de ne pas pécher par parole. Alors je vais vous donner quelques petits conseils pour être un petit peu moins médisant. Eh, je suis un petit peu au ras des pâquerettes là. Parce que prendre la résolution de ne plus jamais, jamais dire du mal des autres, c'est vraiment héroïque. Voyez, et ne plus jamais entendre parler du mal des autres, il faut casser votre télévision. À longueur d'émission, on vous raconte qu'il y a des hold-up par ici, enfin, on vous raconte tout ce qu'il y a de mal dans le monde. Mais quelques petits principes. L'idéal, ça serait de parler des défauts d'autrui comme vous parlez des défauts de vos enfants. J'imagine, messieurs, dames, que lorsque le soir, vous déplorez la paresse d'Ernestine et l'orgueil d'Ernest, vous ne vous en glorifiez pas. Quel dommage, nos enfants, ils ont encore leurs défauts. Or, souvent, lorsque nous parlons des défauts d'autrui, comme dirait saint Paul, c'est pour nous en réjouir, et ça, c'est pas bien du tout. Hein? Certaines conversations en voiture, au retour d'une soirée, d'une réunion familiale, t'as vu nos neveux, hein? C'est pas terrible, les neveux, hein? Sous-entendu, nos enfants, c'est peut-être pas formidable, mais eux, c'est encore pire. Vous aimez bien vos neveux, mais vous avez du mal à accepter qu'ils soient meilleurs que vos enfants. Je vous comprends très bien. Alors, on se réjouit de découvrir chez les neveux ou chez les autres, chez les cousins, des défauts, parce que ça nous rassure sur les nôtres. Quand je me regarde, je me méprise un peu, mais quand je me compare, je me rassure. Il ne faudrait jamais se réjouir des défauts des autres. Et puis, il faudrait se souvenir de nos propres incohérences, de nos propres défauts. Au cours d'une retraite, il y a une demoiselle qui vient me trouver et qui me dit « Qu'est-ce que c'est que c'est un péché mortel ?» Bien inspiré cet après-midi-là, je lui cite toute une série de mots de saint Paul et je prononce le mot « homosexualité ». 2 heures après, elle déboule dans mon bureau de prédicateur. C'est mon problème. Je vais en retraite... souvent, même dans les abbayes, mais je passe toute la nuit avec une autre fille dans la chapelle, dans une chambre de l'hôtellerie. Du jour au lendemain, à la seconde même, elle arrête. C'était donc une homosexualité, vous voyez, qui n'était pas du tout constitutionnelle, mais elle m'a expliqué par la suite que, influencée par les idées de mai 68, elle voulait quand même pas mourir idiote sans avoir fait cette expérience. Vous voyez le genre. Bon, je la retrouve quelques mois plus tard et elle m'explique dans son enthousiasme de convertie qu'elle est dans une paroisse où ça ne chante pas, où les gens ne manifestent pas leur foi. Je l'écoute et puis au bout de 10 minutes, tu vois, tu es en train de tomber dans un défaut peut-être plus grand que celui dont le Seigneur t'a libéré il y a quelques mois. Sous prétexte que tu connais l'enthousiasme de la convertie, c'est une fille qui fait oraison tous les jours depuis ce temps-là. Elle est mère de famille maintenant, une chrétienne, profondément chrétienne. Elle a eu une conversion subite au cours de cette retraite. Elle est passée, vous voyez, d'une vie très désordonnée à une vie très fervente. Bon, je lui dis, tu vois, tu es en train de tomber dans un défaut peut-être plus grave que celui dont le Seigneur t'a libéré. Sous prétexte que les autres n'ont pas eu une grosse conversion comme toi, tu leur reproches leur tiédeur. Et ce fut en quelque sorte sa seconde conversion. Elle oubliait d'où elle venait. Je pense que nous serions plus charitables, plus indulgents, si nous nous souvenions de nos propres incohérences. Aime ton prochain comme toi-même. Aie pitié de toi-même et pitié des autres. Quand on n'oublie pas qu'on est un PPP, eh bien, on accepte que les autres le soient aussi. Et puis, un conseil aussi, il faudrait essayer d'avoir toujours le sourire aux lèvres, en vous souvenant de toutes les merveilles que le Seigneur fait pour vous et pour les autres. J'ai rappelé, en allant dans une abbaye qui n'est pas tellement loin d'ici, Campénéac, c'est pas loin de Plouermel, dans le Morbihan. Et alors j'avais prêché une retraite à ces religieuses de Campagnac il y a quelques années, et j'ai eu l'occasion de repasser par là l'été dernier, et je leur ai rappelé ce qui les avait bien fait rire au moment où je leur avais prêché la retraite. J'aurais dit à un moment donné, mes sœurs, vous allez penser intensément à une religieuse de la communauté que vous avez du mal à blairer. Ça existe dans toutes les communautés, il y a une religieuse qui est plus difficile à blairer. Pensez-y intensément, pendant 30 secondes. Allez, je vous laisse réfléchir. Et puis ensuite, je fais signe à la maîtresse de chœur de commencer le psaume 150 à trois voix, qu'elle chantait admirablement à l'époque. Alors elles se mettent à chanter le psaume 150, louer Dieu avec les 120. Et alors elles ont un visage comme ça. Une fois que c'est terminé, je dis, est-ce que vous avez réussi à continuer à penser du mal de cette religieuse? Elles m'ont avoué que non. Je dis, mes sœurs, c'est tout à fait normal, parce qu'on ne peut pas être à la fois comme ça et comme ça. Quand vous déblatérez sur quelqu'un, vous êtes faites la moue. Vous rejetez quelqu'un comme on rejette un aliment insipide. Quand vous chantez, vous êtes comme ça. C'est pourquoi saint Paul a bien raison de dire qu'on devrait toujours être en action de grâce, en Eucharistie. Parce que quand on se réjouit vraiment des merveilles que les autres sont et des merveilles que le Seigneur fait pour soi, quand on se réjouit de soi, de tout cela, il est difficile de déblatérer sur autrui. Et c'est pourquoi saint François d'Assise était terrible contre la médisance, car il se rendait compte que cela détruisait beaucoup les communautés. Oh là là! Je pense qu'il est bientôt temps que je m'arrête, car toutes les bonnes choses ont une fin. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais bon. Dans le cadre du catéchisme, jusqu'où aller dans les explications, le plus loin possible, je pense que les enfants peuvent comprendre assez bien que Dieu soit mystérieux. Mais vous pouvez employer des comparaisons. Voyez que Dieu et Trinité, c'est comme une famille, mais en sachant que cette explication ne va pas supprimer le mystère. N'essayez pas de... Voyez, les enfants, ils sont tous des hérétiques en herbe. Ils voudraient qu'on leur explique tout. Il faut leur dire que ce n'est pas possible. Faut en faire des petits apprentis théologiens. Bon. Je termine par quelque chose que j'aime bien, parce que si vous retenez ça, je pense que vous retenez l'essentiel du message de l'Évangile.
Le père d'Escouvement sort de son sac personnel une marionnette. Cette marionnette va venir appuyer ce que le père d'Escouvement a l'intention de nous dire maintenant jusqu'à la fin de cette cassette.
Ça, c'est un chrétien de Nantes qui a des difficultés à résister aux tentations qu'il éprouve dans la vie quotidienne. Par exemple, il a du mal à se maîtriser dans ses mouvements de colère avec les autres. Il a du mal à être chaste. Il a du mal à être bon. Alors, il vient dans un groupe de prière du renouveau charismatique. Et il dit de tout son cœur, « Seigneur, écoute-moi, Seigneur, exauce-moi. » Seigneur, écoute-moi. Il se prosterne même. Seigneur, écoute-moi. Il revient chez lui. Et au moment de la tentation, il tombe. Il se dit, je n'ai pas dû prier suffisamment. Donc il retourne dans un autre groupe du renouveau charismatique, où on a l'air plus fervent. Il met les autres dans le coup. Et il dit, Seigneur, à trois voix, à quatre voix, Seigneur, écoute-moi. Seigneur, exauce-moi. Il retourne chez lui. Il tombe de nouveau. Alors j'aurais pu prendre une autre marionnette où le petit bonhomme, il a un col ecclésiastique parfaitement orthodoxe, voyez, mais je ne m'en sers pas parfois parce qu'on croirait que je suis pour le col romain d'une façon absolue. Bon. Et comment se fait-il que ça ne va pas? Eh bien parce qu'il s'imagine, le brave, que la grâce est une espèce de super vitamine spirituelle qui le rendrait plus fort que les autres dans la tentation. Vous avez des gens qui prient dans le groupe de prière pour ne plus avoir à prier dans le reste de la journée. Ça ne marche pas et tant mieux. Un jour, il s'apercevra qu'il restera toujours un petit bonhomme, fragile, pas fortiche, pas costaud, Mais au lieu de s'en lamenter, il dira comme saint Paul, j'irai jusqu'à me glorifier de mes faiblesses pour qu'habite en moi et dynamis tu Christu, le dynamisme du Christ. Autrement dit, comme Thérèse, comme saint Paul, n'est-ce pas mon petit bonhomme, il se réjouit d'être pauvre, d'être fragile, d'être pas costaud, la petite brebis fragile que je vous montrais hier. Mais de prière en prière, d'Eucharistie en Eucharistie, il va tomber un peu plus dans les mains de Jésus. Et là, dans les mains de Jésus, qu'est-ce qu'on acquiert? Force et souplesse. Dans les mains de Jésus, on est bien, on est faible, mais on est fort parce qu'on est là dans les mains de Jésus. Et donc, quand il retombera dans les difficultés de sa vie quotidienne, quand il sera tenté de nouveau de tomber, qu'est-ce qu'il fait? Il retombe dans les mains de Jésus. Et c'est là qu'il acquiert la force. Tâchez de retenir cela. Vous resterez toujours des enfants, des faibles, des fragiles, des agneaux pas fortiches, mais dans les mains de Jésus, qu'est-ce qu'on est bien, n'est-ce pas mon petit bonhomme? C'est là qu'on acquiert force et souplesse. Si maintenant vous êtes scandalisé par ma marionnette, rattachez-vous de rappeler Sophonie, Dieu danse avec nous. Ne crois pas que Dieu soit sérieux, il valse avec les bienheureux. Saute au plafond pour tout de bon, car Dieu est Dieu et c'est tant mieux. Voilà. C'est comme une antienne que Jésus d'abord chanta. Loin de nous toute tristesse, chantons tous Alléluia. Notre-Dame de Liesse, avec toi dansons de joie. Cette année faisons la fête, nous chanterons à tue-tête. Il faut que chacun s'apprête à chanter comme un pinson. Dieu lui-même nous invite à sortir de nos prisons, car l'esprit qui nous habite élargit nos horizons. Là, là. Voilà.
Et voilà que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Dans le monde, vous aurez beaucoup à souffrir. Mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Oh!
Pas seulement pour bien vivre dans notre foi, en nous-mêmes, mais c'est pour la gloire du Père. Toi qui as prié le Père et qui nous a appris à le prier.
Et Esprit Saint descendent sur vous et restent toujours.
Amen.
Vous venez d'entendre l'intégrale des interventions du Père d'Escouvement des 18 et 19 novembre 2000 à Nantes dans le cadre du week-end diocésain du groupe de prière du renouveau charismatique. Nous allons compléter cette cassette maintenant par différents cantiques et chants qui ont été donnés au cours de cette session.
Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu.
Yeah.
capitaine.